Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra même, bonjour, bienvenue, que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent et évidemment notre générique, c'est une musique de film, en l'espèce celle d'un film de Blake Edwards, un petit bijou intitulé « Diamant sur canapé » 1962, Audrey Hepburn, George Piper dans les rôles principaux, Henry Mancini à la baguette de la musique. Ce jour, eh bien, nous allons évoquer la carrière d'une des plus grandes actrices anglaises de tous les temps, Vivianne Marie Hartley, née aussi que ça paraisse à Darjeeling, en Inde, le 5 novembre 1913, mais plus connue sous le nom de Vivian Leigh, Leigh étant le nom de son premier mari. Vivian Leigh donc débute au cinéma en 1934, soit à peine âgée d'une vingtaine d'années, en faisant de la figuration. Et puis ensuite, eh bien, elle tourne quelques films où elle prend progressivement de l'assurance. On peut citer parmi certains d'entre eux l'invincible Armada, Fire in England, tourné en 1936 et qui est un film patriotique célébrant la nation anglaise à une époque où 1936, guerre d'Espagne, etc. Les nuages commencent à s'accumuler à nouveau sur l'Europe. Et puis, elle rencontre celui qui va devenir son mari, sinon pour l'éternité, du moins pour l'éternité cinématographique, Laurence Olivier, rencontré justement sur le tournage de l'Invincible Armada. En 1938, on la verra dans Vedette du pavé avec Charles Laughton, avant qu'elle n'abandonne une très grosse production signée d'Alexandre Korda, qui était déjà le producteur de l'Invincible Armada. Le film qu'elle abandonne s'appelle « Le voleur de Bagdad » et elle va l'abandonner pour ce qui va être le rôle de sa vie. Un film que forcément vous connaissez, puisque le film, c'est ça. La légende veut que ce soit Myron Olszewski, le frère de David Olszewski, qui présente Vivian Leigh à ce dernier en disant « Je te présente Scarlett O'Hara ». Et effectivement, c'est bien ce qui arrive. En 1939, Vivian Leigh obtient un rôle qui a été depuis un an convoité par toutes les plus grandes vedettes d'Hollywood, alors même qu'elle est anglaise, alors même qu'elle est née aux Indes et qu'elle n'a donc rien du personnage ô combien sudiste de Scarlett O'Hara, l'héroïne d'Autant n'emporte le vent. Ai-je besoin de le rappeler? Mais c'est bien elle qui obtient le rôle, et avec ce rôle, eh bien, elle acquiert un statut de superstar, à la fois, comme pourrait le dire Oscar Wilde, c'est le rôle de sa vie, mais c'est aussi la malédiction de sa vie, puisque pour le reste de sa carrière, qui débute juste, comme je vous l'ai indiqué, Vivian a 25 ans seulement, et elle se retrouve en vedette de ce qui est considéré comme un des plus grands films de tous les temps. Alors certes, aujourd'hui, et à juste raison, vilipendé pour sa vision condescendante et même raciste des Noirs, et sa vision ô combien édulcorée de ce que fut l'esclavagisme dans les États du Sud. Mais malgré tout, ses défauts, eh bien, Autant n'emporte le vent, Gone with the Wind, en anglais, signé par Victor Fleming, George Cukor et combien d'autres, mais surtout signé par son producteur David Olszewski, Autant n'emporte le vent reste un des symboles du cinéma, de la magie du cinéma. Aux côtés de Vivian, il y a évidemment Clark Gable dans le rôle de Rhett Butler, le séducteur avec lequel elle engagera une histoire d'amour ô combien tourmentée. 4 heures ou presque de grand spectacle, 4 heures ou presque de magie, 4 heures ou presque de musique signée de Max Steiner, le grand démiurge hollywoodien. Et bref, un film qui défie tous les superlatifs et qui rencontrera un succès, à mon avis, si on prenait en compte juste le nombre de personnes qui ont vu le film plutôt que le nombre d'argent qu'il a pu générer, eh bien, Autant en emporte le vent serait sans doute parmi les premiers. Et quelquefois les défauts déjà soulignés, eh bien, il reste encore un spectacle absolument magique. Bon, je dois le dire, j'en bafouille, le producteur de 24 notes secondes que je suis ne peut s'empêcher de verser sa petite larme quand il entend le générique de ce film vu une bonne douzaine de fois, je le crains. Bon, il faut quand même passer à autre chose. On a déjà consacré il y a très très longtemps une émission entière à Autant en emporte le vent. Et puis, il faut aussi évoluer dans la carrière de Vivian Leigh qui ne pouvait pas en rester à ce triomphe, même si elle pouvait presque exiger tous les rôles. Alors, elle exigea celui de partenaire de Laurence Olivier qui, entre-temps, était devenu son mari dans l'adaptation d'un autre grand roman, plus grand encore que Autant d'emporte-vent, il faut bien le reconnaître, Léo de Hurlevent. Alors, le roman Léo de Hurlevent, c'est Émilie qui l'a signé, je crois. Oui, c'est ça, c'est Émilie Bronté qui l'a signé. Et ma foi, elle n'obtient pas ce rôle qui échoue à Merle Oberon. En revanche, elle demande que le rôle principal de La Valse dans l'ombre, le film qu'elle tourne, arrive à son mari, donc Laurence Olivier, mais il échoue à Robert Taylor, ma foi. Ce sont les producteurs à l'époque à Hollywood qui décident. Et donc, La Valse dans l'ombre de Mervyn LeRoy sera le film qui succède à Autant en emporte le vent. Il rencontrera évidemment un succès moindre, une histoire d'amour entre Myra, incarnée par Vivian Leigh, une jolie ballerine, et Roy Cronin, incarné par le très, très, très viril Robert Taylor, qui est évidemment un soldat de l'armée britannique. On écoute un extrait de la bande originale de ce film, Waterloo Bridge in English. La musique, elle est de Herbert Stothart dans 24 notes. Secondes.
Ladies and gentlemen, we now come to the last dance of the evening. I hope you'll enjoy the farewell waltz.
I'll tell you later. Let's dance now.
What does it mean, these candles?
You'll find out.
Thank you.
I'll write to you. Will you answer?
Of course.
Wonderful evening, wasn't it?
Voilà, vous avez entendu les voix de Robert Taylor et Vivian Leigh. On a même entendu un petit bout de Big Ben à la fin, si vous avez été attentif, dans un extrait de La Valse dans l'ombre de Mervyn LeRoy. Alors, je ne vous garantis pas que le « Ce n'est qu'un au revoir » soit vraiment de Herbert Stott Hart, mais par contre, c'est lui qui l'a arrangé, comme on dit, pour le film. Ce film donc, qui succède dans la carrière de Vivian Leigh à Autant n'emporte le vent, ma foi. Il est quand même effectivement moins connu, il faut le dire, un peu moins réussi, une histoire d'amour assez classique. Ce sera le cas aussi d'une histoire d'amour, mais pas du tout classique, pour le film que Vivian Leigh tourne en 1941. Alors cette fois, elle réussit, alors, je vous ai passé les péripéties, à jouer avec son homme, si l'on veut, avec Laurence Olivier, puisque les deux sont la vedette de That Hamilton Woman, en français Lady Hamilton, un film d'Alexandre Korda tourné en 1941 et qui raconte non pas l'histoire de Lady Hamilton, mais l'histoire de Horatio Nelson, Lord Horatio Nelson, incarné évidemment par Laurence Olivier, et des amours tumultueuses qu'il eut donc avec Lady Emma Hamilton avant de mourir, comme vous le savez sans doute, à la bataille de Trafalgar. Alors, une bataille de Trafalgar un peu contrastée, puisque certes, ce fut une victoire éclatante pour la marine anglaise et une défaite non moins écrasante pour la marine française. Mais par contre, c'est là que Nelson perdit la vie. Il fut tué par un tireur d'élite français. Et la petite histoire un peu anecdotique, je l'avoue, mais je l'aime bien, celle-là raconte que pour préserver son corps et l'enterrer dignement, eh bien, on l'enferma dans un tonneau de rhum pour l'amener en terre anglaise, ma foi. Sic gloria transit mundi, comme disait le sage, mais c'est l'occasion surtout pour Alexandre Korda d'exalter pendant la Seconde Guerre mondiale, alors même que la bataille d'Angleterre est en train de se faire, sauf erreur de ma part, les Américains ne sont pas encore entrés en lice, et donc c'est l'occasion d'exalter l'esprit patriotique des Anglais avec une allusion évidemment transparente à leur capacité de résistance. Winston Churchill, à l'époque Premier ministre, ne s'y trompa pas, il paraît que c'était son film préféré et qu'il l'avait vu une vingtaine de fois. La musique du film, elle était signée de Miklos Rossa. On en écoute un extrait dans 24 notes secondes. un très délicat extrait qui n'a rien à voir avec les partitions outrageusement symphoniques auxquelles nous a habitué Miklos Rossa pour cet extrait de Lady Hamilton, un film d'Alexandre Korda tourné en 1941 avec Laurence Olivier et Vivian Leigh dans les rôles principaux. Vivian Leigh donc qui, entre 1941 et 1945, va s'interrompre parce qu'elle est malade de la maladie, la tuberculose qui finira par l'emporter quelques années plus tard. Elle n'a plus que 6 films, hélas, à tourner. En 1945, on la verra en Cléopâtre, dans César et Cléopâtre, de Gabriel Pascal. En 1948, autre grande héroïne féminine, on la verra dans le Anna Karénine de Julien Duvivier, un réalisateur français, avec un casting complètement britannique pour une histoire typiquement slave, donc forcément ça ne marche pas très très bien. Et puis en 1951, elle va renouer avec le succès, avec un nouvel Oscar à la clé, puisqu'elle va être l'héroïne au cinéma, pardonnez-moi, comme elle a été à la scène de l'adaptation par Elia Kazan du Tramway nommé Désir, un Tramway nommé Désir signé de Tennessee Williams, une pièce qu'elle a jouée pour ce qui la concerne à Londres sous la direction de son mari, toujours Laurence Olivier, et qu'elle va reprendre au cinéma. Alors c'était pas l'actrice qui jouait la pièce aux États-Unis qui va créer le rôle, comme elle refuse, eh bien Vivian Leigh se précipite et elle va jouer aux côtés d'un gars qui n'en est qu'à son deuxième film, mais qui par contre a déjà joué lui aussi la pièce 855 fois. Il faut dire que ça a été un très 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 gros succès pour Marlon Brando, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Ce n'est que son deuxième film, et je suppose qu'à l'époque, toujours, personne n'aura oublié son maillot de corps un peu déglingandé, et puis elle est même déchirée, le maillot de corps, et il va former avec Vivian Leigh une sorte de couple, même si le mot paraît bien mal choisi pour le duo plutôt qu'il forme, absolument inoubliable, tout sur une musique d'Alec North, qui elle aussi l'est inoubliable. On en écoute un extrait, A Streetcar Named Desire, dans 24 secondes. La magnifique partition d'Alex North pour Un tramway de Vénézir, un film d'Alia Kazan tourné en 1951. Vivienne Leigh a le rôle principal. En 1951, elle a encore plus de 15 ans à vivre. Elle ne tournera plus que 3 films. Sa vie sera fort tourmentée et elle finira par mourir de la tuberculose le 8 janvier 1967. Pour le monde entier, elle restera à jamais Scarlett. Et bien, c'est comme ça qu'on va la quitter. Au revoir, à bientôt. See you. Bye bye.